Et bienvenue Jean-Pierre Mercier, merci beaucoup de nous rejoindre sur ce plateau, délégué syndical sud de Stellantis Poissier, porte-parole de lutte ouvrière. Merci beaucoup.
C'est aux alentours de 20h-20h15 qu'un homme a fait irruption dans cet établissement, un bar associatif de la rue Claude Cogan, ici au cœur du village olympique de Grenoble. Cet homme aurait lancé une grenade à l'extérieur de l'établissement. Selon les enquêteurs, il était également armé d'un fusil d'assaut type Kalachnikov dont il ne se serait pas servi. Une explosion importante.
Oui, bah écoutez, vu qu'on sait rien du tout sur les motifs, mais de toute façon, oui, c'est le constat que la société s'enfonce dans la violence. Là, une grenade lancée dans un café associatif au beau milieu d'une cité, d'un quartier populaire, oui, c'est affligeant, révoltant, et c'est révélateur d'une société qui s'enfonce dans la violence. Et par en vrille.
En réponse, faut être plus sécuritaire ou pas?
Ah, là, on a le débat qui évidemment va être lancé. Non, je crois que si les gens dans leur très très grande majorité avaient de quoi nourrir leur famille, avaient de quoi travailler, pouvaient faire des projets de vie dans leur vie, oui, il y aurait beaucoup moins de violence. Moi c'est mon constat. Mettre plus de police, plus de caméras, plus augmenter encore les lois sécuritaires, on voit de toute façon que ça marche pas. Vous savez, quand vous avez des licenciements qui explosent, quand vous avez des fermetures d'usines qui se développent, quand vous avez toute une population qui s'enfonce dans la misère, faut pas s'étonner derrière que l'argent facile, la drogue, le trafic de drogue, le trafic d'armes prend de l'ampleur.
Ukraine, la fin de la guerre est-elle proche? Coup de fil hier, vous l'avez certainement suivi, entre Trump et Poutine. Les cartes, on le comprend, sont rebattues dans cette guerre. Trump et Poutine sont-ils en train de s'entendre sur le dos de l'Ukraine, de l'Europe, de l'ordre mondial? Donald Trump, en tout cas, a annoncé qu'il rencontrera Poutine en Arabie Saoudite.
Écoutez, d'abord, est-ce que c'est la fin de la guerre? On l'espère tous. Si on se met à la place des jeunes soldats russes et des jeunes soldats ukrainiens qui pourrissent dans les tranchées depuis 3 ans dans cette guerre ignoble qui a fait au moins plusieurs centaines de milliers de morts et de blessés des deux côtés, on ne peut que l'espérer. Maintenant, oui, le fait nouveau avec Trump, c'est que Trump, il parle cash, comme on le dit tous, c'est-à-dire qu'il se débarrasse de tous ces éléments de langage. La liberté, la paix, la démocratie, le camp du bien représenté par l'Occident et le camp du mal représenté par Poutine et les oligarques, ça, il laisse tomber. C'est un businessman, c'est un capitaliste qui est à la tête de la superpuissance mondiale. Et les États-Unis sortent gagnants de cette guerre. Ils sont gagnants de cette guerre. Est-ce que Trump est en train de lâcher l'Ukraine? Mais l'Ukraine n'a jamais été qu'un pion dans l'échiquier de la politique internationale des États-Unis. Trump a négocié les terres rares contre le soutien à Zelensky. Zelensky est obligé de dire oui, donc les terres rares, c'est pas n'importe quoi. Vous avez la Chine qui exploite plus de 60% au niveau mondial des terres rares, c'est le lithium, c'est l'uranium, c'est le titane. Pour l'économie américaine, pour les capitalistes américains, c'est extrêmement important, c'est les terres rares. Vous avez les terres noires, les terres agricoles extrêmement fertiles, qui ont été littéralement dépecées entre d'un côté les oligarques russes et de l'autre côté les fonds de pension américains, c'est les banques américaines qui se sont accaparées de toutes les terres agricoles ukrainiennes. Et entre nous, quand la guerre a démarré, il y a ce cordon économique, ce blocus économique, vous allez arrêter, vous les Européens, d'acheter le gaz russe pas cher, bon marché, et vous allez acheter mon gaz américain qui est très cher. Ils ont déstabilisé l'économie allemande, ils ont du coup déstabilisé l'économie européenne. Ils ont continué leur guerre, les capitalistes américains ont continué leur guerre économique sur le terrain européen. Ils sont aussi concurrents les uns des autres. Est-ce que vous êtes d'accord sur le que Trump a fait un chantage sur Zelensky? Oui, je continue à soutenir.
Bien sûr.
Tu deviens russe.
Bien sûr.
Mais en échange, tu me donnes toutes tes terres rares.
Nous sommes d'accord là-dessus. Et ça,
c'est le fait d'un dirigeant démocrate qui lutte pour la paix et la démocratie.
Est-ce que la défense de l'OTAN, le réveil de l'OTAN, l'importance de l'OTAN, ça vous parle, vous, Jean-Pierre Mercier?
D'abord, l'OTAN n'a jamais cessé d'exister. contrairement à son engagement suite à l'effondrement de l'URSS et de la chute du mur de Berlin, normalement l'OTAN aurait dû être démantelée. L'OTAN a perduré, s'est affirmé et a toujours tenu. Parce que derrière, il y a les intérêts du capitalisme américain qui est très important. Mais
vous êtes attaché à l'OTAN, vous,
et un peu les nôtres.
Pas du tout. Ah, voilà. Je suis pas du tout attaché à l'OTAN.
Pardon, j'aurais dû être beaucoup plus direct.
Je vais dire une phrase. Excusez-moi, ça va vous choquer.
Non.
Mais je suis pas du tout attaché à l'armée française non plus.
Ben ouais.
Et je suis pas du tout attaché aux intérêts des capitalistes français. Parce que vous savez, vous connaissez comme moi cette phrase d'Anatole France : on croit mourir pour la patrie et on meurt pour des industriels. Les Ukrainiens, la population ukrainienne et les soldats russes en ont fait l'amère expérience à coups de centaines de milliers de morts. Et ce qu'on est en train d'essayer de nous vendre, oui, c'est qu'il va falloir que l'Europe, la France, alors les petits Frenchies avec le cornu qui essayent d'exister au milieu des Américains, ça fait doucement rigoler, y compris les Européens n'achètent pas les formidables armes françaises. Ils achètent les armes américaines. C'est normal, on va quand même là où on n'a pas le choix d'acheter, parce que les Allemands n'ont pas le choix d'acheter entre Français et Américains.
Ils prennent
les Américains. Mais non, c'est parce qu'il y a
un tel
poids de l'économie américaine sur le monde. Alors vous pouvez rêver, parce que vous vous sentez Français, et donc la France, cette merveilleuse France dominatrice, etc., elle doit reprendre du poil de la bête. Vous êtes en plein rêve. Mais en tout état de cause, oui, moi personnellement, je pense que aujourd'hui, la population française et les travailleurs en France n'ont aucun intérêt à l'OTAN et au surarmement. C'est ça qu'on essaye de nous vendre pour l'avenir.
Allez-y.
C'est-à-dire une préparation à une guerre.
Oui.
Ah non, excusez-moi.
On est un mineur qui tue comme un adulte, doit-il être jugé comme un adulte? Faut-il aller encore plus loin? Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, veut lui plus de fermeté.
On s'enfonce véritablement là dans le programme du RN, programme de l'extrême droite, où demain ça sera sans doute une proposition pour ouvrir les bagnes d'enfants qu'on a connu en France. Voilà, et avec le résultat que ça a donné, c'est-à-dire pitoyable, et c'était vraiment une catastrophe humaine et sociale. Non, là on est vraiment dans la démagogie populiste, politicienne, où c'est la surenchère à droite, mais aussi à gauche. Hein.
Comment ça, à droite, aussi à gauche?
Bah, parce que vous avez tout un discours aussi sécuritaire que la gauche, d'abord le Parti Socialiste, puis après Fabien Roussel a repris à la droite, pensant pouvoir surfer sur la vague et pour essayer d'engranger des résultats électoraux. Donc là, on est dans une surenchère politicienne. C'est la course à l'échalote, à celui qui va faire la proposition de loi qui paraît la plus ferme, la plus sécuritaire, la plus répressive, parce qu'il n'y a que ça qui marche, etc.
Et Jean-Pierre Mercier, est-ce que je peux vous poser une question?
Bien sûr.
Vous êtes d'accord sur le fait qu'un crime, il faut le punir?
Alors c'est très étonnant que vous me posiez cette question-là, parce que dès qu'on remet en cause les lois répressives, c'est-à-dire on serait du côté
on laisse
tout faire.
Juste ma question. Mais est-ce qu'il faut punir les crimes?
Mais bien sûr. Mais encore une fois, quand un mineur commet une tragédie, commet un crime, on peut pas le juger et le condamner de la même façon qu'un majeur.
Ça, c'est un argument, enfin un discours
je pense
qu'on peut tout à fait entendre. C'est ce que j'ai dit.
Vous êtes d'accord avec ça?
Ouais.
Et encore une fois, je redis parce que j'en suis vraiment convaincu, c'est toute cette idéologie qui pousse le balancier politique de la société vers la droite et l'extrême droite, et on est en train de s'enfoncer là-dedans. Et il y aura de toute façon aucun résultat concret en termes de diminution d'homicide, en termes de diminution de violence.
Qu'est-ce qu'il faut faire face à l'explosion de la violence des mineurs? Alors vous allez me dire, les chiffres, etc., on voit quand même des affaires, on est à peu près de la même génération. Il y a 30 ans, on ne voyait pas ça.
Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a une telle explosion.
Des gamins découpés à la machette, des grenades jetées dans des cafés. Pardon,
c'est mineur, ça. Oui, c'est vrai, on ne sait pas si c'est un mineur pour la grenade.
Non,
à Grenoble.
Explosion de la violence dans la société, hein, oui. Mineur est confondu.
Oui, bien sûr qu'il y a une explosion de la violence. Alors moi, j'ai une lecture et une explication qui va pas convenir, qui va pas vous convenir. Donc j'en suis.
On est là pour en débattre.
Mais quand vous faites le constat des fameuses 30 glorieuses, ces années où il y avait pas de chômage, où c'était le plein emploi, où l'ensemble du monde du travail gagnait des revendications, gagnait des droits collectifs, et puis vous avez un basculement de la société avec cette crise économique qui a démarré, qui s'est amplifiée, qui s'est développé, vous avez tout un pan de la société qui est de plus en plus large, qui tombe dans la misère, et la misère n'appelle pas des comportements...
Je sais pas, indécent d'être déjà dans cette posture de 2027
Mais écoutez, c'est le jeu politicien qui est normal.
Légitime ? C'est pas forcément la même chose, hein, de dire que c'est normal et de dire que c'est légitime.
C'est pénible. C'est pénible.
Alors, je misais sur vous, sur ce coup.
Bien sûr que c'est pénible, parce que quand on les voit tant à l'Assemblée nationale ou au gouvernement, où chacun tire la couverture à soi, où chacun a des ambitions personnelles, politiques, monte son écurie pour pouvoir gagner la course, bien sûr que c'est pénible, parce que pendant ce temps-là, c'est pas que les uns et les autres je porte un quelconque espoir sur eux pour régler le problème des licenciements, pour empêcher les fermetures d'usines, pour augmenter le pouvoir d'achat réellement, c'est-à-dire que pour que les plus riches de cette société mettent la main à la poche enfin, et que ceux qui font tourner l'économie arrêtent de payer autant. Non, c'est pas eux qui vont régler tous ces problèmes-là, mais c'est vraiment C'est pour moi vraiment un cirque électoral, un cirque politicien, et je peux vous dire qu'autour de moi, à l'usine, personne ne fait attention à tous ces ouais, politiciens qui jouent vraiment personnel, quoi.
Et ben, pourtant, alors ça c'est pour vous, Bruno Retailleau, il pense que ces propositions peuvent séduire aussi la gauche.
Bah écoutez, il peut y aller. Maintenant, oui, là où il peut avoir raison, c'est chez certains responsables politiques de gauche, oui, trouver une oreille. Fabien Roussel, par exemple, c'est le genre de responsable politique qui peut se retrouver sur ce même terrain.
C'est la deuxième fois que vous lui en voulez.
Oui, il fait quand même des déclarations assez pas étonnantes, mais on a quand même l'impression qu'il a touché le fond et à chaque fois il gratte. Bon, mais chez les socialistes. Chez les socialistes, il y a un certain nombre de responsables socialistes aussi qui peuvent trouver l'écho à ce genre de proposition de fermeté. Je vais pas citer Valls, parce que mais il y a d'autres tous ces copains, oui, bien sûr.